Mégaphone.
Le magazine de la rédaction de Jet.
Mobilisation sociale et citoyenne.
Écologie économie sociale et solidaire. En pays nantais et au-delà.
Mégaphone. Le magazine de la rédaction de Jet.
Tous les mercredis à 18h et sur jetfm.fr.
Pour voir une pièce de théâtre qui s'appelle Kama Vortex, les cinq sensibles, une pièce qui va aborder énormément de sujets tabous en lien avec la sexualité. On vous demandera de respecter les acteurs et tous les uns les autres. Juste en rentrant dans l'amphi, je vous donnerai un petit papier. Ce qu'on vous demandera, si possible, c'est de sortir un crayon pendant la pièce de théâtre et juste après. Vous pourrez écrire vos réactions, vos questions. Juste à la fin de la pièce de théâtre, il y aura un quart d'heure où vous pourrez faire une pause. Et après, on se retrouvera en amphi pour faire un débat avec les acteurs et avec les intervenants. Je vais laisser les intervenants présenter.
Donc, je suis Carline Messager, coordinatrice du CORIVI des Pays de la Loire. C'est l'instance régionale de lutte contre le VIH et les infections sexuellement transmissibles.
Aujourd'hui, vous êtes là dans le cadre du mois de la santé sexuelle sans tabou. C'est la deuxième édition. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce dont il s'agit ?
Donc c'est un mois effectivement qui est organisé par le CORIVI des Pays de la Loire en coordination avec l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire. L'objectif de ce mois, c'est que sur l'ensemble de la région, sur les 5 départements, on puisse parler de la santé sexuelle, mais vraiment d'une manière large sur la question des tabous, des violences, des harcèlements, ce que c'est qu'une IST, qu'est-ce que c'est que le VIH, comment on peut l'attraper, enfin voilà. Essayer d'informer vraiment largement la population, plus spécifiquement les jeunes, sur toutes ces questions de santé sexuelle pour amener de l'information et les orienter vers les structures territoriales, vers les dépistages notamment. Donc là, on a le Cégide, par exemple, qui est présent pour pouvoir donner ces informations aux jeunes et qu'ils puissent, après, d'eux-mêmes, aller vers ces structures quand ils en ont besoin.
Quand vous dites jeune, c'est quelle tranche d'âge ?
Alors, on est plutôt sur du 15-25 ans.
Et il s'agit donc de faire connaître, à la fois de donner des informations sur le champ de la santé sexuelle, mais aussi de faire le lien avec les structures du territoire.
Oui, tout à fait. L'objectif, c'est que donc il y a un gros événement, on va dire, dans le cadre de ce mois de la santé sexuelle, c'est les pièces de théâtre. Donc la pièce de théâtre, on est sur la dernière date aujourd'hui. Elle a été représentée deux fois dans chaque département. Donc elle aborde beaucoup de thématiques. Mais l'idée, c'est aussi qu'une fois cette pièce présentée auprès des jeunes, lycéens ou apprentis, qui puissent avoir des ressources, enfin connaître en tout cas les ressources locales, vers qui ils peuvent se tourner en cas de difficulté sur ces thématiques ou de questionnement. Donc c'est pour ça que la présence des partenaires locaux est importante.
Ces sensibilisations, informations, elles ont lieu dans des lycées, des centres de formation aussi. Combien de jeunes vont être touchés et approchés, informés via ce mois de la santé sexuelle sans tabou ?
On a 3 lycées et 2 URMA, centre d'apprentis. Donc au total, alors j'ai pas le dernier chiffre, mais par date, on est entre 100 et 150 personnes par créneau, on va dire. Donc fois 10, ça fait 1000 jeunes touchés.
1500. Au niveau justement des jeunes et des IST, du VIH, où en est la situation aujourd'hui ? Quelle est l'urgence à informer sur ces enjeux-là ?
Alors sur le VIH, il y a nécessité de continuer d'en parler parce qu'il y a des traitements qui existent et qui sont très bien tolérés et avec lesquels du coup on peut vivre. Pour autant, les contaminations continuent. Donc il est important de continuer à parler du VIH, des modes de transmission.
C'est une écrasante majorité de garçons en centre de formation.
C'est vrai.
vous étiez en train de nous dire, avant qu'on soit interrompu par le groupe de jeunes qui s'apprête à aller voir la pièce de théâtre que Structure Trouble propose dans le cadre de ce mois de la santé sexuelle, vous étiez en train de nous parler justement de la transmission de VIH, mais au-delà d'IST qui se fait toujours aujourd'hui.
Oui, oui, il y a toujours des contaminations au niveau des IST et donc la nécessité de promouvoir ce dépistage.
D'accord. Ouais. Et est-ce qu'il y a une spécificité des Pays de la Loire, que ce soit en termes de relais, de tissus, et bien justement de structures qui vont dépister, orienter, accueillir les personnes qui s'interrogent sur leur santé sexuelle?
J'aurais tendance à dire non, il n'y a pas une spécificité. Après, il y a un réseau d'acteurs qui est nombreux et qui est bien développé sur l'ensemble des territoires, que ce soit des territoires ruraux ou plutôt urbains. Donc.
Et aujourd'hui, c'est une date parmi les 9 autres?
Oui. Donc on est sur la fin de la session de représentation des pièces, avec un bilan pour l'instant, enfin, de ce qu'on a pu voir et entendre, très positif sur cette pièce qui aborde beaucoup de thématiques et qui amène des questionnements aussi de la part des jeunes, qui seront peut-être aussi plus à l'aise pour pouvoir l'aborder avec des professionnels à la fois de leur établissement ou les professionnels qui étaient présents, acteurs de territoire qui étaient présents sur ces événements.
Merci d'être là. Aujourd'hui, la fin du silence. L'histoire des invisibles nous éclate au visage. Un mur des possibles s'ouvre. Les modèles, les identités, nos sexualités, nos vies peuvent devenir plurielles, émouvantes. Le flou se répand. Pour cela, mon équipe et moi-même vous proposons de plonger au cœur de la mémoire de votre établissement. Nous partirons à la rencontre de certains souvenirs, plus précisément ceux que ces murs jugent importants de vous révéler. Pour que les différences se propagent, que la violence cesse, que l'étrange et l'étranger ne soit plus tabou.
Oui, oui, c'est parti, professeur Gavette, mettez-nous une musique digne de ce nom. Mais oui, ça c'est parfait. Professeur, mettez-vous en position, nous allons ouvrir le vortex. Oh non. Oh non.
Ouais, toi aussi ça te revient.
Oh, j'ai embrassé Victor!
Oui.
Oh, la boulette!
Et après?
Bah, c'est marrant, après. En fait, je m'en souviens pas. Je me souviens même pas comment on est rentré ici.
Attends, tu te rappelles que je t'ai trouvé dans la chambre de Victor, Colline?
Ah, mais je pue la gerbe! Mais sérieux? Il s'est passé quoi?
Attends. Colline, est-ce que tu te rappelles être allée dans la chambre de Victor?
Mais je suis pas allée dans la chambre de Victor. Et Max, elle était où là, pendant que je me vomissais partout dessus?
On était ensemble à l'étage à ce moment-là.
Ah ouais? Bah c'est cool ça! Mais c'est bien! Vous êtes fait plaisir au moins! Qu'est-ce qu'il y a?
Quand on est descendu à l'étage, quand on est descendu de l'étage, d'accord, Max et moi, on cherchait, d'accord, on a tourné au salon là où tout le monde dormait. Non, tout le monde dansait. Tout le monde dansait. Il y en a qui dormaient, il y en a qui dansaient, mais on t'a pas trouvé. On est remonté au niveau de l'étage intermédiaire, d'accord, et on se retrouve dans le couloir là, celui qui mène à la chambre de Victor. Ok, Victor sortait de sa chambre, il était, je le croisais dans le couloir, en sens inverse, il était avec des potes, ils étaient plusieurs. Ok, je suis passé devant la porte de sa chambre qui était restée ouverte et je t'ai vu, t'étais là. T'étais sur le lit, tu dormais, t'étais inconsciente. rappelles vraiment pas?
Non. Non.
Je suis Arnold Mensa, je suis comédien de théâtre, cinéma, série et je suis aussi prof de théâtre. Et j'habite à Rennes, j'ai fait l'école nationale supérieure d'art dramatique du Théâtre National de Bretagne à Rennes.
Vous faites partie de la compagnie Structure Trouble, est-ce que vous pouvez nous présenter également Structure Trouble?
Alors ce sera ma collègue Camille qui sera plus à même puisque moi je suis invité par la compagnie, je travaille avec la compagnie mais je ne fais pas partie de la compagnie.
Voilà Camille, au moment justement où vous la mentionnez. Bonjour Camille, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous présenter Structure Trouble?
Oui, bonjour. Alors moi, je m'appelle Camille Roch et je fais partie de Structure Trouble, une compagnie en fait de spectacles. Je dis spectacle parce que c'est pas que du théâtre, c'est plus large. On s'attarde beaucoup au travail du corps, donc on fait de la danse théâtre, des spectacles sans parole. On fait beaucoup de cabarets où il y a de l'effeuillage, du striptease burlesque et on donne également des stages.
Comment est-ce que vous en êtes arrivé à travailler sur cette pièce qui est destinée à, enfin, qui prend place dans le mois de la santé sexuelle sans tabou? C'était une réponse à un appel à projet. Pourquoi est-ce que vous êtes allé là-dessus et comment est-ce que vous avez travaillé ce thème?
Donc on a vu passer un appel à projet de l'ARS, l'Agence régionale de la santé, qui cherchait un spectacle sur le thème de la sexualité sans tabou à destination des 15-25 ans. Et en fait, on s'est dit, c'est vachement, c'est très très en cohérence avec ce qu'on fait d'habitude plutôt dans le monde de la nuit, dirons-nous. Le travail du corps, la question de la sexualité, la question du rapport à l'autre, la question du genre aussi. Tout ça, c'est quelque chose qui nous touche énormément. Et donc, on s'est senti légitime de parler de ça, quoi.
Comment est-ce que vous avez
je suis Arnold
trouvé,
Mensa,
conçu,
je suis...
inventé, écrit cette scénette? Est-ce que vous êtes allé parler avec des jeunes de 15 à 25 ans pour vous inspirer? Comment est-ce que vous avez travaillé?
Il faut dire que l'ARS avait un cahier des charges très précis. Il fallait parler de beaucoup de sujets tabous, sexualité au pluriel, hétéro et non hétéronormé, plaisir, consentement, agression, violence,
avortement,
pornographie, et, voilà, entre autres, identité de genre, transidentité, genre. Et donc ce qu'on a commencé en janvier, Nana qui est la metteuse en scène, elle nous a proposé elle nous a proposé des thématiques avec des images, etc. Et chacune et chacun de nous, donc on est 5 au plateau, chacune et chacun de nous devions proposer une petite forme moitié improvisée, moitié écrite, qui se base sur notre vécu d'adolescent, adolescente et notre ressenti en général. Un peu une histoire. L'histoire.
Alors, instant, parce que là, même avec le vent souffle, même avec la moumoute, ça s'entend.
Je peux redire s'il faut. Hein. À partir de ces espèces de formes, ces scènes, ces propositions qu'on a construites, Nana a écrit le cadre général, donc ces espèces de ghostbusters qui arrivent pour faire rejaillir des souvenirs, et ensuite les souvenirs tels quels. Et nous, à l'intérieur, c'est une écriture collective. Donc à partir du canevas donné par Nana, à partir de nos propositions, à partir de ce qu'elle a proposé, on a coécrit le spectacle qui s'est affiné au fur et à mesure, quoi.
On regarde un film, c'est du cinéma, voilà quoi. Non
mais qui fait ça, Non, bref, enfin, moi c'est comme ça que j'ai appris à connaître mes goûts. Après, on en discute. Sinon, comment tu sais ce que t'aimes ou ce que t'aimes pas?
Colline, c'est du porno, c'est trop gênant. Enfin, je veux dire, tout le monde sait qu'on fait pas l'amour comme ça dans la vraie vie. Et puis j'ai pas besoin, moi, de voir ça, pour connaître mes goûts.
Je sais déjà ce que j'aime ou ce que j'aime pas. Alors oui, merci, on sait que le porno c'est pas comme dans la vraie vie, c'est du cinéma, c'est une industrie. Ça reste de la fiction avec du bon et du mauvais. Mais là, franchement c'est du bon. Et puis toi là, du coup, Max, t'aimes quoi? Toi qui sais?
La belle bite à Yann? Hein? Non, mais vas-y, raconte-nous. C'était comment? Est-ce qu'il a été tendre? Est-ce qu'il a été brutal? Est-ce qu'il t'a mis des doigts?
Non mais sérieux là?
Tu lui as mis des doigts?
Mais t'es abusé là!
Et t'as joui ou t'as...
Mais calme-toi là!
Colline, je peux faire un peu direct?
Ben quoi?
Enfin, c'est... Et puis, tout de suite là, l'orgasme, c'est pas the goal dans la sexualité, ok? Enfin, moi, j'en ai marre de cette injonction-là, au plaisir et à la jouissance tout le temps, là.
Max, est-ce que t'as kiffé?
Bah, c'était pas ouf. C'était rapide. Mais c'est juste que c'était pas du tout ce que j'attendais, quoi. Genre, on a pas fait de prélis.
Meuf, en fait, les prélis, ça veut rien dire, quoi. C'est comme si, du coup, que toutes les pratiques autres que la pénétration, et bah, c'est moins important, et que c'est pas du sexe. Mais c'est pas vrai, quoi. Ça, c'est tellement une vision cis-hétéro-patriarcale du désir, quoi.
À tes souhaits.
Tu vois, Max, quand on l'a fait, toi et moi, tu vois, mais ça, c'était du sexe, quoi. Parce qu'on se caressait...
Mais arrête, là!
Mais meuf, pourquoi t'es tout le temps gênée?
On le continue, le film?
Hein? Moi, si je l'ai acheté, c'est pour le regarder, quoi. Hein?
Tu l'as acheté, là?
Mais c'est du cinéma, darling! C'est pas une de ces vidéos trash qu'on trouve partout sur Internet, hein. Là, y a un scénario, y a des lumières, et puis les conditions de travail de ces gens sont respectées. Parce que c'est un travail, en fait. Hein. Et d'ailleurs, tout le monde devrait payer son porno.
Alors, ouais, c'est une idée, mais après, toi, c'est un peu facile, quoi. Parce que moi, perso, j'ai pas les thunes, en fait. Je sais pas, et puis franchement, j'ai trouvé des trucs plutôt pas mal sur internet, gratuit. Genre, c'est plutôt du contenu érotique, tu vois. Enfin, il y a des dessins, ça j'aime bien. Des audios amateurs. C'est cool les audios parce que du coup, ça fait travailler l'imagination. C'est pas mal. Il y a même des BD érotiques.
Est-ce que vous avez eu des sujets de débat entre vous particuliers par rapport à la manière d'aborder ces thèmes?
Oui, beaucoup, parce qu'on est tous et toutes très différents. On n'a pas la même conception de la sexualité, puis on a eu tous et toutes des histoires très différentes.
Un petit exemple d'une des scénettes qui a donné lieu, voilà, à des échanges entre vous aussi, ou à...
Alors, un exemple, ça a été donc il y a une scène dans laquelle Billy, qui est un des actrices de la compagnie, je dis actrice parce que Billy est non binaire, joue le rôle donc de Emile, un jeune ado qui est dans sa chambre et qui se questionne sur sa transidentité. Et donc on entre vraiment dans ses pensées avec le son, avec la musique, il y a un peu une playlist bande son d'ado. Et dans cette scène, à la base, Billy commence par, du coup le personnage d'Emile commence par entrer dans sa chambre, enlève son t-shirt et enlève son binder, qui est une brassière
très serrée.
Très serré, voilà, pour aplatir les seins, quoi. Et en fait, à la base, il jouait quasiment toute la scène, justement, torse nu. Ce qui, en fait, nous, ne posait aucun problème, puisque des hommes torse nu, on en voit assez souvent dans les spectacles. Sauf qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de débats avec les institutions, surtout, qui avaient un peu peur des réactions, notamment des parents, sur, d'accord, c'est un homme torse nu, mais c'est un homme qui a des seins, est-ce qu'on a le droit de montrer des seins, même si c'est un homme. Et donc, ça questionnait. Et donc, on était dans une on parlait de sexualité sans tabou, et pourtant, il y a des tabous qui venaient. Et donc là, ça nous a. Bon, c'était des gros débats entre nous. Enfin, on était assez échaudés sur est-ce qu'il faut suivre ou pas. Qu'est-ce que ça raconte politiquement aussi de jouer quand même avec le binder ou sans binder mais en t-shirt.
Eh bien, c'est le t-shirt qui l'a emporté. Est-ce que c'est pour parce que vous répondez à un cahier des charges ou finalement par souci pédagogique,
Billy serait la meilleure personne pour répondre, mais ça c'est encore c'est un sujet très brûlant encore, disons. Pour des raisons évidentes.
Mais on aimerait à l'avenir que ça pose plus problème, en fait, ce genre de choses. Pour l'instant, on voit que le public n'est pas prêt. Donc on va tranquillement attendre qu'il soit prêt.
Et encore, c'est même pas le public, c'est les institutions qui préjugent de comment le public pourrait recevoir. Voilà, c'est bon.
En même temps, par rapport à ce qu'on entend dans l'actualité, avec non seulement la mobilisation des extrêmes sur certaines manifestations artistiques, mais aussi de parents d'élèves qui peuvent s'offusquer qu'on aborde des questions comme la transsexualité, enfin la transidentité, dans le cadre de l'école. Votre pièce témoigne d'une belle liberté pour aborder ces enjeux-là.
Oui, en fait, on a juste envie de montrer que il y a plein de manières d'être très différentes et que On aimerait bien juste pouvoir vivre tout simplement comme on est, quoi. Sans être jugé, sans être violenté, juste vivre bien.
Mais par rapport à la liberté pour véhiculer ce message aujourd'hui, elle vous paraît encore effective et forte ?
En dehors de... Voilà, il y a une liberté, mais encore par rapport à ce qu'on vient de dire, c'est pas encore tout à fait ça. Donc, mais c'est vrai que c'est un spectacle qui traite de sujets parfois très durs, hein, enfin, notamment les sujets d'agression, etc. Mais quand même, ça parle de sexualité. Les sexualités, c'est aussi, avant tout aussi du plaisir, c'est du partage. Et je trouve que arriver, c'est quand même un spectacle qui donne quand même du peps, bizarrement, alors que c'est qu'on traite aussi de sujets durs. Et je trouve que cette joie, ce peps, ce bonheur, cette joie de vivre, et notamment cette scène où le personnage d'Emile danse dans sa chambre et est heureux, en fait, et ben je trouve que cette joie, elle est politique, en fait. Et c'est important de montrer cette joie aujourd'hui, cette joie de vivre, surtout dans notre monde avec la mobilisation d'extrême.
Et une dernière question sur la réception. Ça fait combien ? Cinq dates. Vous êtes sur la 10e et dernière représentation aujourd'hui dans le cadre du mois de la santé sexuelle sans tabou. Comment s'est passée la réception ? Est-ce que ça a correspondu à ce que vous projetiez ou pas ? Est-ce que ça diffère complètement d'un territoire à l'autre, entre zone rurale, zone urbaine, Mayenne, Sarthe, Loire-Atlantique ?
Moi, ce que j'ai pu observer, c'est pas tant que ce soit différent sur les territoires, c'est plus les établissements. Ça réagit pas pareil dans les lycées généraux, où c'est très souvent très mixte.
Même les lycées professionnels, d'ailleurs, hein. Même les lycées pro.
En fait, ce qui se passe vraiment, c'est que l'ambiance n'est pas pareille lorsque le public est mixte. C'est un peu moins réceptif quand c'est surtout un public masculin et plus accueilli lorsque c'est un public mixte.
Ça raconte quelque chose de la société parce que ça reste quand même ça reste un privilège de ne pas se sentir concerné par des questions comme ça.
Parce que là, c'est un théâtre qui a une fonction sociale, hein, de débat, d'information. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir atteint là-dessus ce que vous souhaitiez ?
Ça fait réagir les élèves et ça fait discuter. On a aussi beaucoup d'élèves qui viennent à la fin nous remercier, échanger leurs expériences. Et il y en a même qui pleurent de joie, oui. Et moi, j'ai eu déjà beaucoup d'émotions parce qu'après le spectacle, on discute avec eux. Et ça me procure des fois beaucoup d'émotions d'être là, à discuter de ces thèmes-là. De manière calme et paisible. Voilà.
Merci à tous les deux.
Merci à vous.
Ainsi s'achève notre voyage au cœur de la mémoire de votre. N'est pas sans conséquence. Vous voyez donc qu'il est important de respecter certaines limites, que ce soit les vôtres ou celles de vos semblables. N'ayons pas peur de prendre du plaisir lorsque cela rime avec prudence et considération. Osez le dialogue, osez le partage et la curiosité. Lorsqu'on apprend à connaître l'autre, on apprend à se connaître soi. Et on découvre alors qu'il n'y a pas une norme, une vérité, mais un nombre infini de normes et de vérités. La seule vérité, s'il devait y en avoir une, c'est que nous sommes toutes et tous des individus uniques. C'est ce qui fait nos différences et notre richesse. Merci pour vos précieuses présences. Mais surtout, n'oubliez jamais ceci. Notre sensibilité est notre force.
C'était sympa, quoi.
Mais ça vous a fait marrer ?
Ouais.
Et au niveau des sujets, est-ce que vous trouvez que c'était juste sur ce que vous pouvez voir autour de vous, vivre ?
Oui, assez, oui.
Et ça vous donne envie d'en discuter ou pas avec autour de vous ?
Après, je sais que dans mon entourage, ils sont assez ouverts avec ça, donc oui, je pourrais en discuter. Oui.
Bah, en soi, c'était bien joué, ouais, c'était sympa. Mais ça peut être vachement éducatif pour certains qui connaissent rien du tout. Mais c'est pas mal.
Ouais. Vous étiez d'accord avec ce qui était dit dans la pièce sur la vision des jeunes et puis sur les propos ?
Bah oui, ouais, plutôt d'accord. Hein.
Et vous êtes minoritaire, vous êtes dans un établissement où il y a beaucoup de garçons.
J'ai pas eu de problème ici, mais je pense que pour certains ça peut faire un bon rappel, mais ça doit être à l'appel. Je sais pas, on n'a pas une classe où c'est problématique.
Ouais, vous vous sentez pas en tant que fille, en tout cas confrontée à des situations d'intolérance ou d'irrespect ?
Non, pas dans l'enceinte du lycée.
Pas du tout.
Même dans un établissement où vous êtes ultra minoritaire.
Oui, franchement non, j'ai pas de soucis là.
Vous avez quel âge ?
Moi j'ai 18 ans.
Moi aussi.
Et ça c'est au lycée en tout cas, c'est pas une question qui s'est posée pour vous, c'est question de respect
Non, on est traités pareil, les gars pareil, ils nous traitent que normalement en fait, comme ça devrait toujours être le cas.
Et sur les notions de consentement, où on voit beaucoup pendant le spectacle que voilà, c'est pas toujours positionné. Est-ce que ça, vous avez l'impression que, enfin vous avez été confronté à des choses ou des proches justement, où il aurait fallu de la pédagogie avant?
Oui, mais je pense que certains, c'est pas, même s'il y en a, pour certains, c'est pas une question de pédagogie, je pense que c'est plus profond que ça.
Donc vous croyez pas forcément que voir une pièce comme ça, ça va changer les choses? Ça peut contribuer à changer les choses?
Certains oui, mais certains, ça changera rien. On aura beau leur dire... Ou alors il leur faut un déclic plus tard, je sais pas, mais pour avoir été déjà confronté à la situation, il y en a où c'est peine perdue, j'ai l'impression.
Ceux qui sont déjà ouverts, en tout cas, voilà, ça peut alimenter, mais c'est
oui,
ceux
voilà,
qui vont être...
Ceux qui seront réceptifs, plutôt.
Merci.
De rien.
En vrai, c'était pas mal, hein. J'ai bien aimé, c'était carré. Ouais, on a passé un très bon moment, franchement, ça apprend beaucoup et c'est nickel.
Voilà. Et est-ce que vous trouvez que c'était à peu près juste sur les questions qu'on peut se poser quand on est jeune ou les situations de vie ?
En vrai, ouais, hein. Ouais, en vrai, c'était juste, je pense. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. C'est juste, c'est nickel.
Et est-ce que vous trouvez ça utile que de voir ensemble une pièce comme ça ?
Ça dépend pour qui, en fait. Ça, pour moi, c'était utile. Pour d'autres, je pense pas. Ça dépend de chacun, en fait.
Et vous allez en parler entre vous ?
Ouais, bien sûr.
Vous en parlez déjà de ces sujets-là ?
Oui, bien sûr, on en parle tout le temps.
Bon, on en parle déjà, donc pas besoin d'avoir envie, quoi.
Est-ce que vous êtes d'accord avec le message un peu respect, ouverture totale qui est dans la pièce ?
Franchement, ouais. Oui, c'est d'accord, carrément.
Vous étiez pas, il y avait pas des moments où vous étiez pas d'accord avec ce qui était dans la pièce ?
En vrai, non. Totalement d'accord, 100%. C'est toujours les deux décisions qu'il faut apporter dans un couple ou dans un trio ou dans un quadrio ou dans tout. Il faut toujours que tout le monde soit d'accord avec les décisions et puis voilà.
Voilà, c'est ça. Faut que ça soit carré.
C'est ça, être carré. Ouais. C'est que c'est respectueux.
Voilà, c'est ça, exactement. Il faut que ça soit carré.
Comme ça, là.
Et donc, on a le droit d'être homo, d'être trans.
En vrai ? Moi. moi, ça me dérange pas. Tant qu'ils font pas les choses avec moi, c'est carré.
Ouais, voilà.
C'est carré. Faut juste pas qu'ils viennent me faire chier. Quoi. Genre, en gros, ils font leur vie, mais s'ils peuvent me demander des choses, mais tant qu'ils veulent pas. Qui veulent pas du sexe avec moi.
C'est nickel.
Le fait de bien s'assurer du consentement.
Est-ce
que c'est un mot que vous connaissez, que vous utilisez ? Est-ce que vis-à-vis des filles, vous faites toujours attention au consentement ?
En fait, genre l'autre, si je demande tout le temps, genre si elle veut, genre je lui demande. Mais non, genre je lui demande en mode genre est-ce que tu veux bien, tu vois ? Et si elle dit ouais, bah vas-y. Et sinon, si elle dit non, c'est bah non. Genre, y a pas à forcer, dire bah allez, vas-y. Mais non, vraiment. Vraiment, genre, si elle veut pas, elle veut pas. Mais si elle veut pas, elle veut pas, c'est tout.
On va poursuivre avec les petites questions qu'on a eues dans l'urne. Il y en a une qui dit : que pensez-vous de la propagande LGBT dans les écoles et écoles primaires ? Donc, avant de répondre à cette question, je voudrais parler du mot propagande. Je ne sais pas si tout le monde sait de quoi il s'agit. En fait, quand on parle de propagande, c'est le fait d'imposer des idées avec une notion de pouvoir. C'est des gens qui ont du pouvoir et qui essayent de faire passer leurs idées coûte que coûte et en force. Quand on parle de LGBT, il n'y a pas du tout cette notion de pouvoir. Ça ne peut pas aller avec le mot propagande, je pense. Donc on va quand même essayer de répondre à cette question. Mais c'est vraiment deux choses qui ne peuvent pas se dire dans la même phrase, pour moi. Donc LGBT, c'est lesbienne, gay, bi, trans, et puis etc. Parce qu'il y a beaucoup d'autres termes. C'est pas de la propagande dans les écoles primaires. C'est expliquer le fait que ça existe pendant très longtemps. On n'en entendait pas parler. Et il y a beaucoup d'enfants qui, dans leur enfance, n'en ont jamais entendu parler. Et pour autant, peut-être que ces enfants se sentaient concernés par ça. Mais peut-être aussi que, comme on leur en parlait jamais, eh bien, ils se sentaient différents, mais différents dans le sens anormal et du coup très mal dans leur peau et dans leur vie. Et seuls aussi, isolés, à ne pas savoir s'ils peuvent en parler ou pas, parce qu'autour d'eux, on ne leur a jamais dit que juste que ça existait, ne serait-ce que ça. Et ça peut faire des personnes qui évoluent de façon pas bien dans leur peau, tout simplement. Donc là, on ne peut pas parler de propagande LGBT, on peut parler juste de la vie. C'est juste quelque chose de la vie qui... Je ne sais pas comment dire plus simplement. Enfin, c'est de l'information, mais c'est... on est tous différents. Il y a des blonds, des bruns, des petits, des grands. Il y a des hétéros, des bi, des homos, des personnes trans. Il y a de tout. On est tous différents et tout doit être dit. Et c'est très, très bien qu'on puisse en parler justement dans les écoles.
En fait, enfant, on baigne dans un monde, dans un univers, dans quelque chose. Enfin, je veux dire, moi, quand j'étais petit, j'étais fan de Disney. Je regardais les cassettes Disney en boucle et tout. Dans les cassettes Disney, tous les princes étaient avec les princesses. C'était que des trucs très hétéros. Tous les jouets, ouais, très sexisés, en plus, marrant. Enfin, et cisgenre, c'est l'inverse de transgenre. C'est-à-dire une personne qui... Voilà, on va me lancer dans la diffusion.
Et du coup, cisgenre, c'est quand ton genre assigné, par exemple... tu nais avec un pénis, on t'a dit que t'étais un homme et tu te sens homme, ok, t'es cisgenre, voilà. Transgenre, c'est les personnes qui ne se sentent pas en adéquation avec le genre assigné à la naissance. Donc voilà, tu nais avec un pénis, on te dit que tu es un homme et non, tu n'es pas un homme, tu ne te sens pas homme, tu es une personne non-binaire ou une femme, et ben voilà, tu es transgenre.
Et là où je voulais en venir, c'est que, en fait, pour moi, la vraie propagande, ce serait de montrer qu'un seul modèle aux jeunes personnes. Voilà. Pour moi, la vraie propagande, ce serait de montrer aux enfants, aux ados, même aux adultes, seulement des modèles genre hétéros, seulement des modèles cisgenres, en l'occurrence, seulement un certain type de sexualité, un certain type de comportement, un certain type de façon de vivre son genre. Pour moi, la vraie propagande, c'est ça. Moi, c'est ce que j'ai vécu dans mon enfance, parce que j'ai eu qu'un seul modèle dans mon enfance, donc très longtemps, je ne me suis posé aucune question. Ne pas montrer, au contraire, à quel point la vie elle est riche, à quel point elle est plurielle, à quel point il y a tellement d'autres possibilités et qu'on peut aussi ne pas savoir, pour moi, ne pas montrer cette richesse, ce serait ça, la propagande. Et pour moi, au contraire, la vraie ouverture, c'est d'ouvrir ce que c'est possible assez tôt pour que justement la personne puisse se constituer en se disant, ok, j'ai le choix. Et peut-être que je vais choisir le choix de la norme sociale, mais pourquoi pas, c'est ok, mais je le ferai en sachant que c'est un choix, en sachant qu'il y a d'autres. Parce que moi, j'ai jamais rencontré d'enfant traumatisé par le fait de savoir que, en fait, il y a d'autres modèles. Et ça me paraît très très important. Voilà.
Au-delà de, justement, le fait d'avoir un choix,
ce reportage réalisé dans le cadre du mois de la santé sexuelle sans tabou auprès de Structures Troubles et de sa pièce de théâtre s'achève. Pour finir et poursuivre quand même un peu sur le thème, je vous propose d'écouter maintenant une courte interview avec le Planning Familial 44 qui intervient tout au long de l'année sur ces enjeux.
Je suis Caroline Françoise, conseillère conjugale et familiale à l'association Planning Familial de Nantes.
Le planning familial pratique aussi l'éducation à la sexualité toute l'année, tout au long de l'année ?
Tout à fait. Notre rôle en tant qu'établissement de vie affective, relationnelle et sexuelle est d'intervenir tout au long de l'année sur toutes les questions de santé sexuelle, que ce soit dans les établissements scolaires ou hors scolaires.
Alors hors scolaire, on va être pas mal sur l'accompagnement individuel. Qu'en est-il du cadre scolaire ? Est-ce que vous avez une idée du nombre d'interventions que vous faites par an ? Et puis sur quel niveau est-ce que ça peut se jouer ? Est-ce que ça commence dès le primaire, collège, lycée ? Comment ça se passe ?
On est intervenu l'année dernière, on a fait à peu près 170 interventions sur le département Loire-Atlantique, sachant qu'on a donc l'antenne à Nantes et une antenne aussi à Saint-Nazaire. Et puis on a des bénévoles qui font aussi des stands en plus de nos interventions en milieu scolaire. Ça représente à peu près 3000 personnes qui ont participé à des séances d'éducation à la sexualité en 2022.
Tout public, là encore, primaire, collège, lycée ?
Alors, on est surtout sur un public de collégiens, collégiennes et lycéens, lycéennes, et également des MFR.
Maisons familiales et rurales ?
Maisons familiales et rurales, tout à fait. Et puis, c'est surtout sur ce public-là qu'on intervient actuellement.
Vous disiez à peu près 170 interventions ?
Oui. C'est ça.
À l'année sur le département, si vous pouvez nous décrire assez brièvement le contenu de ces interventions, c'est quoi ? C'est 2 heures, vous arrivez avec des outils pédagogiques, qu'est-ce qui se passe ?
Pendant 2 heures, effectivement, entre 1h30 et 2 heures, on va intervenir pour parler de santé sexuelle. Donc ça peut être des ateliers thématiques sur des sujets tels que la contraception, les IST, le consentement, les violences, mais également l'anatomie, le corps, comment ça fonctionne, c'est quoi un rapport sexuel, quelles sont les choses à savoir, les informations sur le corps, l'anatomie, la sexualité, les sentiments, comment tout ça fonctionne et comment ça s'articule en fait dans la vie. Les séances peuvent durer entre 1h30 et 2 heures. C'est souvent un petit peu court parce qu'on a beaucoup, beaucoup de questions à aborder.
Les élèves sont friands de ce genre d'échange. Est-ce qu'il y a de la gêne ? Est-ce que vous intervenez face à une classe entière ? Et comment se passe le dialogue ?
On intervient généralement sur des demi-groupes classe pour favoriser les échanges, le dialogue, la discussion. C'est vrai qu'on est autour de 12 à 15 élèves maximum par séance. Il y a souvent de la gêne au départ parce qu'ils ont peur qu'on parle de leur sexualité ou de pratiques ou de choses qui peuvent un petit peu les surprendre. Mais à partir du moment où on leur explique dans quel cadre ça s'inscrit, à quoi ça sert, de quoi on va parler, qu'on les met à l'aise, qu'on travaille avec eux, de quoi ils ont besoin pour que ça se passe bien, généralement, il y a beaucoup de questions. Et généralement, à la fin, ils trouvent que c'était un petit peu court.
Est-ce que vous êtes dans une approche de la santé sexuelle au sens global, un peu intégrative, c'est-à-dire que ça parle aussi d'identité de genre, de consentement ? Est-ce que ça va au-delà de l'anatomique, on va dire, et du côté médical ?
C'est vrai que la santé sexuelle, on est plutôt dans un continuum. Donc, en fait, tous les sujets sont liés. Donc, que ce soit l'orientation, le genre, comment on se sent, qui on est, le consentement, pour parler aussi jusqu'à au sujet de violence. Donc c'est très très large. Et en fait, on voit bien que tout ça est lié, tous les sujets sont liés les uns aux autres. Donc on aborde ces questions-là. Et puis les jeunes nous posent aussi des questions sur les sujets. S'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, puisqu'on a souvent des temps de questions anonymes, ils vont poser leurs questions qui sont peut-être parfois un peu plus personnelles. Et on peut aborder ces questions-là d'orientation ou de genre qui vont les intéresser.
On voit actuellement une montée de courant d'extrême droite qui cherche à interdire la réflexion et les interventions scolaires qui vont avoir une conception large, comme ça, de l'éducation à la sexualité. Est-ce que vous avez été entravé d'une manière ou d'une autre dans vos actions d'éducation ?
Alors aujourd'hui, non, on n'a pas eu de blocage particulier. On sait bien que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses qui sont racontées sur le planning, sur ce qu'on peut faire, ce qu'on peut dire. Nous, aujourd'hui, on travaille avec les établissements scolaires. On travaille, il y a des professionnels de l'établissement qui sont présents aussi dans nos interventions. Les sujets, les thématiques sont travaillés, sont discutés et répondent aux besoins des jeunes. Donc, s'ils ont des questions sur un sujet en particulier, on va y répondre. Alors oui, l'établissement va nous dire, nous, on aimerait plutôt travailler sur le consentement ou sur la contraception parce qu'il y a un besoin spécifique auprès de ce niveau de classe-là. Et après, on va répondre aussi aux attentes des jeunes. C'est pour ça qu'une séance ne va pas ressembler d'un établissement à un autre, les séances ne vont pas se ressembler nécessairement. Et effectivement, il y a des craintes et des inquiétudes sur les sujets qu'on peut aborder, mais il faut savoir que le contenu est tout à fait adapté à l'âge des participants et des participantes, à leur capacité de compréhension, à ce qu'ils peuvent, eux, déjà voir, connaître ou avoir accès, et que l'idée, c'est de pouvoir parler librement et sans tabou de tous les sujets de la vie affective et sexuelle.
Est-ce que vous avez l'impression que par rapport au collège et au lycée que vous avez pu connaître, les enfants, adolescents d'aujourd'hui sont plus ou moins informés ?
Alors moi, quand j'ai commencé au planning familial, je pensais qu'avec les réseaux sociaux, les émissions, les séries, ils étaient beaucoup plus informés que j'ai pu l'être moi à mon époque. Mais en fait, ils ont les mêmes questions, ils ont les mêmes craintes, ils ont les mêmes interrogations. C'est un sujet qui est complexe pour eux à aller chercher en fait sur les réseaux sociaux, sur les sites. Donc nous, notre rôle, c'est justement de leur donner des sites qui vont avoir des informations fiables, précises, adaptées, et de faire le point aussi sur c'est quoi la pornographie, pourquoi elle est interdite aux moins de 18 ans, pourquoi il est important d'aller se renseigner au-delà de ce qu'on peut voir dans la pornographie, parce que ce n'est pas la réalité et c'est pas comme ça que se passe nécessairement un rapport sexuel. Donc notre rôle, c'est ça, c'est dans l'accompagnement à où je vais trouver la bonne information qui me concerne et qui m'intéresse pour avoir tout ce qu'il me faut pour vivre une vie sexuelle et affective dans laquelle je me sens bien.
Théoriquement, il y a une loi qui impose 2 à 3 séances d'éducation à la sexualité chaque année. Je crois que ça démarre même en primaire, collège et lycée. Ça, c'est dans la loi. Dans les faits, comment ça se passe ? Est-ce que vous, au niveau du planning familial, par exemple, vous pourriez faire plus, ou vous constatez qu'il y a un besoin qui serait bien plus grand que ce que vous ne pouvez faire ?
Alors, on constate effectivement un besoin. Après, on constate aussi la difficulté, que ce soit pour nos structures. On a pas suffisamment en fait de personnes pour pouvoir intervenir comme on le souhaiterait. Dans les établissements scolaires, c'est complexe aussi pour eux de pouvoir mettre en place ces 3 séances, parce que c'est sur du temps d'enseignement, c'est des moyens financiers aussi à déployer. Et puis, plus largement, c'est les subventions qui vont parfois un peu manquer aussi pour mettre en place ces séances-là. Après, sur le terrain, on constate la nécessité de ces 3 séances, et nous, on voit bien quand des jeunes ont déjà eu des premières séances, que ce soit avec l'infirmier ou l'infirmière scolaire, avec d'autres associations, ou qui ont déjà pu avoir des séances du planning familial, quand on les revoit, il y a des sujets qui sont compris, qui sont acquis, qui maîtrisent plus facilement, des thématiques sur lesquelles ils peuvent parler plus librement. Donc on voit l'intérêt de ces 3 séances, mais on a toutes et tous un peu un manque de moyens, et on est un peu bloqué aujourd'hui face à ce sujet.
Le planning familial vient de lancer un recours auprès de la Cour d'appel administrative, du tribunal administratif. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce dont il s'agit ?
Alors c'est le planning familial au niveau national qui a lancé ce recours avec 2 autres associations, SOS Homophobie et SIDAction, parce que ces 3 associations avaient le même constat d'un manque de moyens pour faire appliquer la loi des 3 séances dans les établissements scolaires du primaire à la terminale, de mettre en place ces 3 séances et d'avoir les moyens suffisants pour les faire.
Et quand on dit 3 séances, c'est 3 séances par an. Donc chaque année, quel que soit le niveau, 3 séances d'éducation.
Exactement, 3 séances d'éducation. Après, ça peut être des séances aussi qui peuvent être mises en place par l'établissement, au sein de l'établissement, avec l'infirmier ou l'infirmière scolaire. Ce n'est pas 3 séances forcément que du planning familial ou de SIDAction ou de SOS Homophobie, mais c'est plus large en fait. Il y a de nombreux intervenants sur le sujet. Mais en tout cas, on constate qu'il y a effectivement un manque.
Merci. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose sur ce thème de l'accès à la formation, à la sexualité pour les jeunes ?
Nous, on travaille aussi pour que ce soit partagé. C'est-à-dire qu'on travaille aussi beaucoup sur la formation des professionnels pour permettre des personnes qui sont sur le terrain, qui sont au contact des jeunes, de pouvoir aussi donner ces informations, les transmettre. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrivera à développer aussi le réseau et partager les informations pour que chacun et chacune ait accès accès à des informations de santé sexuelle.
Donc là, c'est former les professeurs, les enseignants, les éducateurs.
Ça peut être effectivement former des professeurs, ça peut être des enseignants, ça peut être souvent ce sont aussi des infirmiers, infirmières scolaires, ça peut être des personnes qui travaillent dans toute personne qui travaille au milieu de auprès des jeunes.
Il reste beaucoup à faire, comme le recours en justice que vous co-portez au niveau du planning familial en témoigne. Pour autant, est-ce que vous avez l'impression que les choses ont évolué positivement sur cet accès à l'information concernant la sexualité sur les 10-20 dernières années?
Bon, j'ai pas assez de recul pour pouvoir en témoigner. Moi, je suis là que depuis 3 ans, mais on voit bien qu'il y a quand même des établissements scolaires qui prennent le sujet aussi en main. On a sur le territoire des établissements qui organisent des semaines banalisées sur le sujet. Je pense qu'il y a 10, 15 ou 20 ans, c'était pas le cas. On a des professionnels auprès des jeunes qui sont aussi engagés sur ces sujets-là. Donc, je pense que ça se développe. Ça avance, ça progresse, même s'il y a toujours des manques. Faut pas oublier toutes les initiatives qu'il peut y avoir, soit dans les établissements, soit dans tous les lieux qui accueillent des jeunes aujourd'hui.
Et ça dépend aussi de la bonne volonté du chef d'établissement.
Exactement, mais on en a de plus en plus.
Cette émission est maintenant terminée. Elle est à retrouver sur notre site internet jetfm.fr. À suivre dans un instant, Pensée locale, le programme court de la Fédération des radios associatives des Pays de la Loire. Et tout de suite après, Rock à la Casbah. Bonne soirée sur Jet.
Mégaphone!
Le magazine de la rédaction de Jet.
Mobilisation sociale et citoyenne.
Écologie économie sociale et solidaire. En Pays Nantais et au-delà.
Mégaphone,
le magazine de la rédaction de Jet. Tous les mercredis à 18h et sur jetfm.fr.
Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
Le 12 mai dernier, Nantes Métropole a voté un budget de 1,7 million d'euros pour aménager une piste cyclable le long de la rue Cadoire à Sainte-Luce. Si le développement des infrastructures pour le vélo est de plus en plus important à Nantes, les associations d'autoréparation sont aussi très actives sur le territoire, comme les ateliers du Pignon, situés au quai Magellan. L'atelier est géré par 3 salariés et compte 700 adhérentes et adhérents. Nous avons rencontré Sarah, chef d'atelier. Elle revient sur l'origine de l'asso.
Au début, c'était porté par une association qui s'appelait le BES, le Bureau des études spatiales, où c'était l'idée de créer des endroits pour pouvoir créer des spectacles, des machines et des scénographies. Donc ça, c'était le BES, des événements bien sûr. Et ils ont ouvert un atelier, donc l'atelier du Pignon, qui a assez vite pris son indépendance. Du coup, s'est installé ici en tant qu'association les ateliers du Pignon. Et aujourd'hui, donc, le Pignon existe. Il fait partie des plus gros ateliers d'autoréparation de Nantes. Donc en fait, les ateliers d'autoréparation de Nantes se sont réunis sous un prisme qui s'appelle la clavette. Collectivité locale des ateliers d'autoréparation. Voilà, vélo. Et du coup, tous ces ateliers-là, on se réunit régulièrement pour pouvoir se poser des questions qu'on a en commun, des problématiques communes. Comment est-ce qu'on gère les stocks? Comment est-ce qu'on répond aux attentes de la mairie? Comment est-ce qu'on répond aux attentes des gens? Comment est-ce qu'on fait évoluer l'autoréparation? Comment est-ce qu'on essaye d'être le plus pédagogique possible avec les gens?
Et alors, vous avez plusieurs activités dans votre association. Il y a des balades, des brunchs, de désossage de vélo. Il y a aussi des événements festifs, mais aussi des ateliers de réparation en mixité choisie. Justement, on va particulièrement s'intéresser à cet atelier de mixité choisie. Déjà, peut-être revenir sur le terme mixité choisie. Qu'est-ce que ça implique ?
La mixité choisie, ça implique que pendant les moments qui sont destinés à ça, qui sont donc un temps par mois, on va essayer de donner la place à des personnes qui se sentent pas forcément à l'aise avec la mécanique ou que ça n'aurait pas concerné au premier abord. Du coup, mixité choisie, ça veut dire que clairement, en fonction de une de tes caractéristiques, tu ne seras pas le bienvenu pendant ce temps-là. Là, en l'occurrence, vu que la mécanique, c'est quand même un truc d'homme cis, et dans lesquels ils se sentent à l'aise et tout ça, à l'aise ou au moins concernés où c'est pour eux, il y a plein de petits comportements qui peuvent, ou de gros comportements aussi, qui peuvent carrément gêner des utilisatrices de l'atelier, touristes de l'atelier.
Juliette, je suis venue réparer la chaîne de mon vélo et faire un diagnostic.
C'est la première fois que vous venez ou ça fait plusieurs fois ?
Oui, c'est la première fois. Je suis venue parce que je connais du monde qui travaille ici et ça m'intéresse aussi de savoir réparer. Et effectivement, mixité choisie, c'est toujours plus pratique, mieux, plus sympa. Parce que c'est plus simple de faire par nous-mêmes et voilà, c'est mieux.
En fait, on a beaucoup réfléchi à l'atelier de comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte que tout le monde puisse s'en emparer le plus facilement possible. Ça fait beaucoup de questions parce que même si ici, à l'atelier du Pignon, tout fonctionne normalement, il y a beaucoup d'adhérents aussi, beaucoup d'adhérents, beaucoup de bénévoles. On a plus de 1000 adhérents par mois, par an, je m'emballe, par an, grosse majorité d'hommes tout de même. Et pendant les permes classiques, donc celles du lundi et mercredi 16h-20h, on voit quand même une écrasante majorité de garçons. Les femmes ou autres genres qui viennent ici se sentent pas forcément à l'aise, concernées. Dans les mécanismes d'apprentissage, en soi, il y a des comportements qui sont discriminants, surtout en mécanique. Parce que ça pourrait, comme ça, de demander de la force ou demander d'utiliser des outils, ce qu'on n'a pas mis dans les mains des petites filles. Donc on a constaté qu'il y avait des comportements qui étaient un petit peu relous, mais que nous aussi, on a mis du temps à détecter, c'est normal, parce qu'on a été éduqués comme ça. Mais les « laisse, je vais faire », ou les « tiens, je fais à ta place, là, tu fais mal », ou plein de choses comme ça, c'est des choses qui bloquent l'apprentissage. Donc dans une démarche pédagogique, on a essayé de réfléchir à ça. Et donc il y a tous les autres temps du mois où on essaye de sensibiliser tous les garçons qui pourraient avoir des comportements comme ça. Voilà, donc là peut-être que c'est pas adapté, peut-être que tu aurais dû demander, que faire à la place avant ça, demander c'est bien, accompagner d'une autre manière c'est bien. Donc on essaie de faire de la pédagogie la plupart du temps, mais pendant un temps dans le mois, on a aussi envie d'être peinard qu'entre personnes qui se comprennent et... C'est vraiment des moments qui sont chaleureux, qui sont cocons et drôles, et qui permettent un apprentissage en tranquillité.
C'était Pensée locale, un enjeu de société. Une émission de La Frappe, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
Un reportage de Yelena Parenteau, de Prune.